Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Au fil des bobines sur Studio ZEF 91.1 FM. Voilà, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. J'ai deux personnes avec moi aujourd'hui, j'ai Hervé et Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Hervé, bonjour, voilà. On aura Ceux de la nuit de Sarah Léonore, Naturalite de Dennis Nagy et Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto. Nous allons commencer d'abord par Ceux de la nuit de Sarah Léonore, qui est un documentaire qui parle en fait de la frontière franco-italienne au col de Mont-Genèvre. Voilà, en fait, un jour, le tourisme des capitaux investis pour rentabiliser la montagne, des emplois saisonniers qui font vivre une grande partie des habitants de la région. La nuit, le destin fragile de plus de 10 000 hommes, femmes, enfants, qui en l'espace de 4 ans ont franchi la frontière au péril de leur vie, et qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais.
Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?
J'ai aperçu deux silhouettes. Le bruit circulait dans la vallée que des migrants se perdaient dans la montagne, mais j'en avais jamais croisé. C'étaient deux garçons. Le plus jeune devait avoir l'âge de mon fils. La frontière est vraiment pas loin, mais ils avaient fait des détours invraisemblables. Ils n'arrivaient pas à trouver le chemin pour Briançon. Je leur ai proposé de les descendre en voiture. En bas du col, on est tombé sur un barrage. Les policiers les ont fait sortir de la voiture et les ont embarqués pour les renvoyer en Italie.
Moi, j'allais juste porter assistance à des personnes en détresse, c'est tout. Et puis, d'un coup, la frontière s'est mise à exister.
Je suis militant identitaire depuis 4 ans maintenant. Un soir, on était en place au niveau du col de Mont-Genèvre. On a vu arriver au loin un groupe de migrants clandestins. Dès qu'on les a repérés, on a appelé le poste frontière pour leur signaler qu'il y avait des clandestins qui tentaient la traversée et pour qu'eux, de leur côté, puissent prendre la décision d'aller intervenir.
Tu sais que tu dois aider quelqu'un s'il est en détresse en montagne. C'est comme en mer. C'est la logique des milieux hostiles.
So for me, I can't just sit in Briançon. Still have to walk out of your room. Maybe from there, something good will just happen and that will change your life or your life.
Donc, faut continuer à y aller pour pouvoir raconter. Parce que c'est quand même aussi des moments d'histoire qui s'écrivent. Faudra qu'on s'en souvienne.
Donc c'est un documentaire un peu particulier en fait, parce qu'on peut parler un peu de docu-fiction même quelque part, vu que en fait les témoignages qu'on va entendre sont en fait interprétés par des comédiens, notamment Françoise Lebrun, Damien Bonnard, Solène Rigaud, qui vont en fait incarner différents témoignages qui vont représenter les personnes venant en aide aux migrants. Et en fait c'est un documentaire où on ne voit aucun protagoniste en fait. On voit essentiellement les montagnes, la nature, les traces qu'on peut y voir, les traces qui ont été laissées. Tout ça accompagné justement de voix off, de témoignages reconstitués justement. Donc c'est un parti pris qu'on ne voit pas souvent. Et du coup, Guillaume, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bon, très clairement, encore un film sur les migrants, j'ai pas envie de voir ça, etc. Mais je regarde par conscience les quelques premières images et puis je suis complètement happé. Complètement happé parce que c'est une écriture ultra singulière. Et avant d'être un film où on pourrait s'attendre à avoir une leçon de morale insupportable, on a une œuvre qui se déroule sous nos yeux et qui parle de choses franchement terribles et nous oblige, nous, spectateurs, à avoir notre propre morale, notre position éthique. Finalement, ce film qui pourrait faire peur sur le papier est une œuvre indispensable qu'il faut à tout prix voir, qu'on soit sensibilisé à la cause des migrants ou pas. Parce que effectivement, ce que nous montre ce film, c'est que les gens de la montagne sont des gens qu'on ne vit tranquille et qui ne s'attendent pas au flux migratoire. Tout d'un coup, on est devant un fait indéniable. Il y a des gens qui doivent traverser la frontière en plein hiver et la montagne qui est si belle et qu'on n'arrête pas de voir sous toutes ses formes, sous forme d'archives, sous forme de petites vidéos d'actualité, des plans qui célèbrent la beauté de la montagne, eh bien cette montagne, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et comment on fait quand on a un homme, une femme qui traverse pas habillé, qui se perd et qui meurt de froid, parce que c'est ça qui se passe dans la montagne, c'est qu'on a retrouvé un corps, et ce corps, il n'est pas montré, on ne voit rien du tout. On ne voit que la tombe à un certain moment, qui est repoussée au fin fond du cimetière. C'est un corps anonyme. Et nous, si on était dans la montagne, que ferait-on? Est-ce qu'on viendrait en aide aux migrants? Comment on viendrait en aide? Il y a des lois. Est-ce que on fait avec les lois? Est-ce que on passe au-dessus de la loi parce qu'il y a la loi humaine qui est plus forte que la loi légale? C'est vraiment des questions sans fin. Et c'est un film qui, en plus, je répète, est une vraie leçon de cinéma. Parce qu'on va chercher des archives, on va chercher des témoignages, on va chercher aussi ses propres images, et qu'il faut rassembler tout ça et en faire une forme qui tienne la route.
Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est vraiment justement son côté immersif, justement, parce que ce choix de réalisation permet vraiment ça, en fait. Moi, je trouvais ça très intelligent, justement, de laisser le spectateur se faire sa propre imagination de cette réalité, de se la recréer elle-même. Je trouve que c'est quelque part encore plus fort, en fait. Il y a eu un film qui est sorti à la même période, qui s'appelle Les Survivants, qui est une fiction, et qui parle exactement de la même chose. Si je viens à mon avis, je trouve que dans Ceux de la nuit, ça fonctionne beaucoup plus, en fait, parce que justement, on n'est pas dans de la construction de fiction, on est dans de la pure réalité, justement. Pure réalité montrée de manière très brute, en fait. Voilà, on montre la nature. On montre les endroits où se sont passés ces passages, où se sont passés ces passages douloureux, ces souffrances, ces morts aussi également. Et je suis complètement d'accord avec toi que c'est la meilleure façon, à mon sens, de pouvoir faire réfléchir le spectateur.
Oui, surtout que le film de fiction, par essence, c'est celui qui va permettre au spectateur de s'identifier au héros. Alors que là, il n'y a pas de héros, et que donc on est bien au cœur de l'action. Et puis, il y a tous les champs possibles, parce que là, je vous ai parlé de la tombe, mais on voit quand même, à la toute fin du film, une personne qui a eu ses papiers une fois arrivée en France, qui vit maintenant avec son petit enfant. Et donc, il n'y a pas que la mort qui attend les migrants, et il n'y a pas que les gens qui s'élèveraient contre la loi, qui font que le monde est quand même vivable. Et c'est ça qui est très beau, c'est que la montagne est très belle, que les réflexes des uns et des autres, du gendarme, du juge, des migrants qui s'entraident, etc., on le voit sans que ce soit montré frontalement. Mmh. C'est un manteau qu'on a posé sur une branche d'arbre. Ce sont des petits points qui vont permettre aux uns et aux autres qui sont perdus de retrouver la route. Ce sont tous ces petits signes qui font que, oui, ça marche. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une peur partout, une peur de la neige. On voit des archives où les immigrants italiens fuient l'Italie pour s'installer en France, et où ils meurent de froid aussi, déjà à l'époque, et comment on réagissait, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur.
Mmh. Et qu'est-ce que tu penses justement du fait? Alors moi, parce que moi, ça m'a un peu étonné de savoir que c'était pas des... Je l'ai su qu'après, en fait, m'être renseigné sur le film, que c'était pas des vrais témoignages qu'on entendait, que c'était des comédiens.
C'est des vrais témoignages, qui sont lus par des comédiens,
ce que je veux dire, oui. Voilà, qui sont pas dits par les vraies personnes. J'étais un peu même étonné quand je me suis renseigné là-dessus après. Et qu'est-ce que tu penses de ce choix, en fait? Moi, je me suis toujours un peu interrogé justement de ce choix de faire lire non pas par les vrais protagonistes, mais par des comédiens qui vont reconstituer ces témoignages.
Bah pour moi, c'était indispensable. Ça rejoint un petit peu le film de Jean-Gabriel Périot, où c'est Adèle Haenel qui lit le texte de départ. Et effectivement, cette distanciation est indispensable pour qu'il n'y ait pas d'identification sur quelqu'un d'autre. On n'est pas sur le destin individuel. Si le protagoniste lit son auto-récit, quelque part, si on ne se concentre que sur un cas qui serait exemplaire, mais terriblement situé, on voit la problématique par le petit bout. là, en prenant suffisamment d'écart, de distance, on se retrouve dans une situation générale avec des témoignages qui ne sont que des exemples et qui peuvent être polysémiques. Le comédien, en plus, va rendre la lecture plus écoutable, tout simplement, parce que le témoignage où il y aurait l'alarme, le témoignage où il y aurait une sorte de détachement, parce que effectivement on n'a plus envie de raconter ça, on veut s'en séparer. Je pense qu'il y a trop d'affect dans le témoignage direct. Là, on est à la juste distance.
Eh bien, merci beaucoup pour cet avis. Le film est sorti depuis le 11 janvier, mais il sera demain 2 février, au cinéma Les Lobbies, proposé par Cinéphile, où la réalisatrice Sarah Léonor sera là pour présenter le film. Donc voilà.
Идите отсюда, слышите? Все и так у нас забрали. Ничего у нас не осталось.
Depuis une heure, ton mieux que la chair. Vaya così. Ora ho godnat che è rotta.
On enchaîne tout de suite avec le film Natural Light de Denis Nagy, un film hongrois qui a eu l'ours d'argent officiel de Berlin du meilleur réalisateur. Il se trouve que c'est un premier film, donc on est vraiment content pour lui qu'il ait pu avoir ce prix dès son premier film. Hervé, tu l'as vu avec moi, donc est-ce que tu peux me parler du film ?
Donc c'est un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale, à savoir que de 1941 à 1944, sur le territoire russe, 100 000 soldats hongrois ont participé au maintien de l'ordre aux côtés des occupants allemands. Ici, rien à voir avec les hauts faits d'armes auxquels nous a habitués le cinéma américain. La caméra va suivre Semetka, paysan hongrois, enrôlé comme lieutenant avec sa patrouille famélique, à travers un paysage hivernal, marécageux et froid. Peu de paroles, beaucoup de lassitude transpirent dans ces visages creusés par la fatigue et la faim à la poursuite d'un ennemi invisible. Suite à une embuscade, Semetka verra la disparition de son commandant et sera amené en tant que plus haut gradé à le remplacer. Lui qui jusqu'ici partageait les responsabilités sans trop d'état d'âme, se voit assurer seul les décisions. Il affichera alors un visage émacié, dénué de toute expression, en état de sidération devant une succession d'événements d'une violence inouïe. Il donnera l'impression d'indécision, sinon de mise à distance. Il ignorera volontairement de remarquer des paysans cachés et taira des atrocités commises par les siens. Dans cet espace-temps où toute humanité semble avoir disparu, être lâche ou héros ne laisse que peu de choix. Et c'est bien là, me semble-t-il, la question. Donc ce film a des plans séquences somptueux, une natural light, lumière naturelle, grise, restituant magnifiquement le froid traversé par le kaki des uniformes tristes. Pour moi, c'est ce que je retiens de ce film, en quelques mots. Et il est bien sûr à rapprocher des films comme Requiem pour un massacre d'Hélène Klimov en 1987 ou Le Crépuscule de Sharunas Bartas en 2020.
Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Tu as cité très justement Requiem pour un massacre. Et c'est vrai, quand on voit le film, on y pense assez vite. Parce qu'il y a, je trouve qu'il y a ce même type d'esthétique à la fois très belle, mais en même temps très brutale et violente, en fait. Il y a un plan dans le film que je trouve un plan d'une tête sous la boue, comme ça, qui m'a marqué.
Oui, absolument.
Imprégné la rétine. Ouais.
Alors, c'est pas tout à fait la même thématique, puisque c'est un enfant qui trouve un fusil. Enfin, bref, on va pas raconter le film, mais. Il y a quand même des points communs.
C'est dans son esthétique, je trouve, qu'il y a quelque chose. Évidemment, dans la narration et dans l'ambiance et dans les thématiques, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, Requiem for a Massacre parle quelque part de la fin d'innocence de l'enfance par la brutalité de la guerre. Et donc là, on parle quelque part en fait de la fin d'une certaine innocence aussi, mais pas forcément de la même manière. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas du tout dans une image de violence, une image de guerre. Finalement. Va être un peu obligé de s'y plonger, en fait, malgré le fait qu'il refuse cela. Et donc, voilà, je trouve que c'est traité un peu de la même façon, et justement, de manière très brute. Et je trouve que c'est vraiment un film de cinéma qu'il faut...
Tout à fait, oui. Et je trouve que ces plans-séquences sont absolument magnifiques, et surtout la scène de départ, quoi, où on voit deux personnes sur un radeau qui transportent un gibier... Et là, il y a des images magnifiques de la rivière, de ces deux personnes qui arrivent dans un silence absolument magnifique et qui, bien sûr, vont perdre leur proie parce que les soldats hongrois vont la récupérer pour eux-mêmes, quoi. Et je trouve ça très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Mais je le conseille fortement.
Ah oui, c'est vraiment un très très beau film, et je pense que c'est un film qui de toute façon va faire parler, parce qu'effectivement, ça traite d'un sujet de la Seconde Guerre mondiale qui finalement... assez peu traité au cinéma, en fait. Et justement, la beauté de ces plans, ces grands plans séquences et justement cette violence graphique, parce que c'est très graphique, très violent, je pense, va vraiment en marquer plus d'un. Voilà. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir parlé de ce film. C'était vraiment très bien dit. Le film est soutenu avec les Rendez-vous de l'Histoire. Voilà, c'est quelque chose à souligner. Et il sera au cinéma Les Lobbies, soutenu par Cinéphile, à partir du 2 février jusqu'au 19 février. Avant d'enchaîner sur le film Interdit aux chiens et aux Italiens, qui est un film en stop-motion, un film d'animation stop-motion, nous allons écouter justement une musique d'un film... un de mes films préférés en stop motion, je dois l'avouer, Coraline de Henri Selick. Voilà, on écoute ça. Thank you. Vous êtes de retour dans Au fil des bobines de 91.1 FM. On va parler cette fois d'un film d'animation. C'est assez rare à Cinéphile qu'on propose un film d'animation, qu'on est très content de proposer, de pouvoir vous en parler. C'est Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto. Alors, Interdit aux chiens et aux Italiens, en fait, c'est un film assez personnel qui parle de la vie du réalisateur. Ça se passe au début du XXe siècle, dans le nord de l'Italie, à Ughiretta, berceau de la famille Huguetto, justement. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Huguetto rêvent de tout recommencer à l'étranger. Selon la légende, Luigi Huguetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée.
Luigi !
Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
Antonio, imbécile !
C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ».
Pourquoi ils ont écrit ça, papa ?
Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite.
On ne joue pas avec la nourriture.
Il fascisme.
Le petit oiseau va sortir.
Menteur, je vois pas l'oiseau.
J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée.
Et alors, on joue avec la nourriture maintenant ?
Du coup, Alain Huguetto, qui est son petit-fils, retrace leur histoire via ce film d'animation, via ces différentes techniques d'animation. Alors, Alain Huguetto, en fait, c'est un nom assez connu dans le monde de l'animation. Son nom n'est peut-être pas très populaire, mais en fait, c'est quelqu'un qui a réalisé plusieurs courts-métrages. Notamment, il a été récompensé par un César du meilleur court-métrage pour le film La Boule, qui avait été remis par Alain René à l'époque. Il a fait aussi un film récemment qui s'appelle Jasmine, qui parle aussi d'un conflit de guerre. Et donc, on a découvert ensemble ce film, Guillaume, Interdit aux chiens et aux Italiens. On l'a vu en salle. On est très content d'avoir pu le voir en salle. Est-ce que toi, tout d'abord, tu es habitué des films en stop motion, Guillaume ?
Alors, habitué, j'ai beaucoup apprécié le Pinocchio de Del Toro.
De Del Toro, récemment.
Donc, ouais. On ne voit pas que des stop motion aussi au cinéma. Et puis, il y a quelque chose de magique dans le stop motion, c'est que c'est donc une animation image par image. Et on associe ça à l'enfance. Et à chaque fois, on se prend des claques parce que les films pour adultes en stop motion, ça nous rappelle des tas d'émotions enfantines. Et en même temps, c'est des discours tellement pour adultes. Se remémorer un peu le destin de sa famille, il faut avoir de la bouteille. On ne peut pas faire ça à l'âge de 6-7 ans. Donc, effectivement, ce film, c'est un film grosse émotion. On pourrait se plaindre d'avoir un regard juste émotionnel, pas historique, mais je crois que c'est la carte jouée par ce film. Huguetto ne cherche pas du tout à nous dire « je vais vous faire un récit historique ». Non, non, c'est « je vais vous faire un récit de comment ma famille s'est intégrée en France avec mes émotions, mes ressentis ».
Exactement, je trouve que il y a Alain Huguetto, en fait, comme je le disais, il utilise énormément toutes les techniques possibles donc qu'on peut utiliser dans le cinéma stop motion pour pouvoir raconter ça. Donc il y a un côté très bricolage dans son film, voilà, où on voit sa main notamment. Il intervient d'ailleurs dans le film, on entend sa voix, et il dialogue avec sa grand-mère qui est du coup jouée par Ariane Ascarin. Donc voilà, en fait, il y a deux voix dans le film, il y a surtout deux voix dans le film, donc la voix d'Alain Huguetto et sa grand-mère. Et je trouve ça très bon, en fait, qu'il se recrée un imaginaire, une discussion avec ses grands-parents, voilà, comme s'il les avait pas vraiment connus, mais via justement ces techniques d'animation, cet imaginaire-là, il arrive à recréer ses souvenirs, en fait. Et je trouve ça très beau là-dessus.
Oui, puis ça permet tout simplement de faire des trous. Pendant 10-15 ans, c'est juste le Tour de France qui se rappelle aux souvenirs. Et puis tout d'un coup, le Tour de France, il y a un problème, il y a une guerre mondiale, oui, etc. Donc il y a des sauts comme ça, avec des gros événements historiques. Et puis il y a la vie qui passe. Et puis il faut éduquer les enfants, les petits-enfants, etc., etc. Non, c'est une vraie, douceur. Et c'est... Il en faut des films comme ça. On ne va pas passer que des films comme Natural Life, parce que c'est des films indispensables dans les deux cas, et que ne regarder qu'un aspect de notre vie, on ne va pas au cinéma pour voir toujours la même chose. Donc là, on est vraiment heureux.
Je suis assez d'accord, mais même s'il y a une vraie magie, une vraie poésie dans le film. En même temps, ça parle aussi de moments assez durs, en fait. Ça parle quand même d'une extrême pauvreté, ça parle du racisme, parce qu'il se trouve qu'interdit aux chiens, aux Italiens, c'était en fait une pancarte qu'on pouvait vraiment lire sur l'entrée de certains restaurants, certains commerces. Voilà, ça paraît fou dire ça aujourd'hui, mais c'était une réalité pour les immigrés italiens de l'époque.
C'est les bombardements de la maison, c'est comment on vit aussi le passage de la pauvreté à une classe moyenne, très clairement. On quitte la pauvreté sans devenir riche pour autant. C'est des parcours de vie.
Oui, complètement. Et c'est voilà, le film a vraiment... Vraiment, je trouve qu'il y a à la fois une magie et une dureté. Enfin, le film est très habile, justement, dans ces différents genres. C'est un film qui peut te montrer au plus jeune, alors peut-être pas trop jeune, parce qu'il y a quand même certaines thématiques qui sont abordées.
Pourquoi
voilà.
Pourquoi Maintenant, moi, je trouve que, justement, quand on parle de la guerre, du racisme, etc., c'est jamais plus d'un plan, deux plans, qui donne un background qui fait que quand on a un petit peu plus de bouteilles, on voit les répercussions que ça peut avoir. Mais pour un enfant, c'est simplement ce qui va des passages. Dans les jeux qu'ils font, il y a beaucoup plus cruel, il y a beaucoup plus mortel. Bon, là, il y a quand même la disparition de certains membres de la famille,
voilà,
quand même.
Ça.
Mais ça fait partie de la vie. Mm-hmm. Et je ne suis pas sûr qu'en plus, avec le stop motion, l'enfant soit traumatisé.
Non, il y a une distance.
Il y a une certaine distance qui fait que... Il faut y aller en famille, indéniablement. C'est un film cinéphile, visible par tout le monde, qui fera effectivement qu'on a des conversations après la séance. C'est des beaux moments. Vraiment, c'est un film tendre, plein d'amour. Et c'est ça, je crois, que l'enfant va retenir.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, voilà, on va conclure là-dessus. Après ces belles paroles et justement cette belle motivation à voir ça en famille. Voilà. Interdit aux chiens et aux Italiens, c'est au cinéma Les Lobbies à partir du 16 février jusqu'au 25 février. On vous conseille vraiment tous d'aller le voir. Et voilà. Et c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Guillaume et Hervé, d'avoir pu parler de ce film avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine émission d'ici deux semaines. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et des très bonnes séances. Au revoir.